Terre, il est 22h. Et c'est Magali Homo qui nous rejoint en studio pour nous présenter les informations. Bonsoir Magali.
Bonsoir à tous. Les scènes de liesse dans la bande de Gaza ont laissé place à la terreur. Les Palestiniens ont célébré l'annonce du Hamas tout à l'heure qui dit accepter la proposition de cesser le feu présentée par les médiateurs, l'Égypte et le Qatar. Un espoir qui aura été de courte durée. L'armée israélienne a décidé de pilonner la ville de Rafah dans le sud. Elle maintient par ailleurs son ordre d'évacuer la ville, disant préparer une offensive terrestre. Pour l'État hébreu, la proposition acceptée par le groupe islamiste est loin des exigences israéliennes. Un banquet à l'Élysée en ce moment pour la venue en France de Xi Jinping. Cet après-midi, il a notamment été question de la guerre en Ukraine. Lors d'un tête-à-tête avec Emmanuel Macron, Pékin régulièrement critiqué par les Occidentaux car le pays n'a jamais condamné publiquement la Russie. En réponse, le président chinois a appelé à ne pas salir la Chine sur ce dossier. Pékin jouant, selon lui, un rôle positif pour trouver une solution pacifique. Demain, pour la suite de cette visite d'État, direction les Pyrénées. La Russie qui a menacé les Occidentaux aujourd'hui, tout particulièrement la France et la Grande-Bretagne, dont les ambassadeurs à Moscou ont été convoqués au ministère russe des Affaires étrangères. Moscou, qui ce matin avait annoncé la tenue prochaine d'exercices nucléaires, agitant une nouvelle fois la menace atomique. La Russie qui détient un soldat américain, il serait accusé de vol par Moscou. C'est ce que fait savoir en tout cas ce soir John Kirby. C'est le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Plus d'hommage à Bernard Pivot, l'écrivain et présentateur est mort aujourd'hui à l'âge de 89 ans. L'homme qui nous faisait aimer les livres, salut Stéphane Bern. Emmanuel Macron rend hommage à un passeur populaire et exigeant, cher au cœur des Français. Il nous manquera énormément, réagit pour sa part le Premier ministre Gabriel Attal. L'animateur d'Apostrophe et de Bouillon de Culture a aussi présidé l'Académie Goncourt. L'origine du monde, tagué au centre Pompidou à Metz, l'œuvre de Gustave Courbet prise pour cible par des féministes. Les mots MeToo étaient inscrits sur la vitre qui protégeait le tableau représentant un sexe de femme. L'artiste luxembourgeoise Déborah de Robertis a revendiqué le geste en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux. Deux personnes ont par ailleurs été interpellées. Si vous prenez la route demain, un conseil, partez tôt. Bison Futé a classé la totalité du pays en rouge dans le sens des départs. Après-demain, ce sera orange. Vous êtes nombreux à profiter de cette semaine des ponts de mai pour prendre quelques jours de congé. Le rideau s'est levé sur la 35e nuit des Molières. C'est ce soir sur France 2. Ça se passe aux Folies Bergères à Paris. Les spectacles Courgette et le Cercle des Poètes Disparus avec 7 et 6 nominations font office de favoris.
France Inter présente
Les Odyssées des musées d'Orsay et de l'Orangerie, une série de podcasts originaux pour les 8-12 ans.
L'or Grand Besançon,
Claude Monet, Berthe Morisot, Edgar Degas, oh là là, quelle bande! De la première exposition à la création des nymphéas, je vous raconte une bonne tranche d'impressionnisme.
Les Odyssées des musées d'Orsay et de l'Orangerie.
Attention, ça va décoiffer, n'est-ce pas Monet?
Ah non! La brosse! Et il
à télécharger sur l'application Radio France et franceinter.fr.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Les élections européennes auront lieu le 9 juin et le 8 juin dans certains bureaux de vote des Outre-mer ou des consulats de la zone atlantique. Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes, pensez à donner procuration à un autre électeur. Plus d'infos sur elections.intérieur.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. On en parle.
Les journées de la sécurité routière au travail, c'est du 27 au 31 mai. On en parle dans un instant avec Jean-Marc Fedutti, chef d'entreprise dans le Nord.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Très bonne soirée sur France Inter, il est 22h04, vous retrouvez maintenant Côté Club avec vous Laurent Goumard, bonsoir.
Bonsoir et merci Magali Homo, on se retrouve à 23h.
Oui, tout à fait, à tout à l'heure.
On sera là, tout à l'heure.
J'entends tout.
C'est Côté
Club.
Go.
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 Go, bonsoir et bienvenue dans Côté Club. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques, 6e étage, 22h, 23h, une heure de rendez-vous en direct, en live et en podcast. Tout est bon pour remettre le son. Ce soir, nos invités sont Hélène Ségara, Zélie. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Hélène Ségara, vous célébrez 25 ans de carrière avec un concert symphonique exceptionnel. Ce sera le 21 décembre, salle Pleyel à Paris. L'occasion de revisiter version XXL, votre répertoire des tubes incontournables. Une dizaine d'albums vendus à plus de 8 millions d'exemplaires. À vos côtés, Zélie, c'est une autre histoire. Elle signe son tout premier album, 1 million de petites choses. 16 titres pop qui s'ajoutent à la trentaine que vous avez déjà sortis depuis 2022-2023. C'est fou, fou. Un des titres de ce premier album, Manifeste de la génération Z. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et d'abord, une ouverture de rêve avec Zao de Sagazan qui répète en ce moment même son concert de demain. Ce sera 20h sur France Inter en direct et en public. Concert symphonique avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France à l'Auditorium. J'y serai pour vous le présenter, oui, mais je rêve sur France Inter.
Je ferme les yeux. Nous imaginons là, nous deux, entrelacés, lèvres asséchées par l'amour, l'amour de l'autre. Je rêve, je rêve, je rêve, oh oui, je rêve. Je ressasse nos souvenirs que le temps tente désespérément de détruire. Se glisse un sourire et des larmes au coin de mes yeux. Comment penser l'avenir, penser hier en guérir. Oh, je rêve, je rêve, je rêve, oh oui, je rêve. Je rêve, je rêve, je rêve que tu es. Je sens dans ma poitrine mon cœur qui s'arrête. Je rêve et je fais mine de n'avoir pas senti passer cette réalité qu'endormie. Tu resteras mais plus jamais à côté de moi. Je rêve, je rêve, oh, je rêve, oh oui, je rêve. Je ne fais que rêver, imaginer devenir. Si seulement t'avais laissé le temps de le construire. J'ai tant aimé t'aimer, je ne cesserai de le faire pour de la mort. N'empêche pas de rêver, alors je referme les yeux et je rêve, je rêve, je rêve. Je rêve, oh oui, je rêve. Je rêve. Mais tu n'es pas, non, tu n'es pas, pas vraiment là. Je rêve. Je rêve, je rêve que tu sois là. là, que tu sois là.
Et elle sera là, Zao de Sagazan, demain à 20h en direct sur France Inter depuis l'auditorium en public de la Maison de la Radio. Hélène Ségara et Zélie sont nos invités côté club ce soir. Hélène Ségara, 25 ans de carrière, c'est écrit sur le communiqué de presse, pour annoncer le spectacle symphonique Hélène. Pour Zélie, premier album, 1 million de petits chocs. Vous connaissiez-vous avant d'entrer dans le studio ?
Eh bien non.
Non,
et je suis très curieuse, en fait, j'ai envie que tu me racontes.
Eh bien, on va tout vous raconter sur l'histoire de Zélie. Zélie, vous connaissez bien sûr Hélène Ségara.
Oui, bien sûr.
On va revenir sur ce parcours. Premier album pour Zélie. Hélène Ségara, vous vous souvenez du premier album, Cœur de verre,
oui.
En 96.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé à sa sortie? La première fois que vous êtes entendue à la radio?
La première fois que je me suis entendue à la radio, je peux te dire exactement où j'étais. J'étais en train de faire des courses pour mon fils Raphaël et on était en train d'acheter de quoi manger. Et on avait des moyens très, très limités à l'époque. Et je me suis entendue à la radio au moment, à la caisse, où je reposais des yaourts parce que j'avais pas assez de sous.
Ça doit être dingue quand même.
Ouais.
La schizophrénie totale entre le fait de passer à la radio, ouais, et d'avoir des problèmes financiers,
ouais,
au moment de passer.
Et en fait, je m'en foutais de requitter les yaourts à ce moment-là. J'en revenais pas et j'ai reçu ça en plein cœur en me disant « Waouh, peut-être que ma vie a changé ». On habitait 15 mètres carrés tous les deux. On tirait vraiment le diable par la queue, comme on dit. Mais,
et la vie a changé rapidement après cela ?
Ça a mis un petit peu de temps et ça a vraiment changé au moment de Vivo Perley. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui ne pouvait pas finir de payer ses yaourts à la caisse, j'ai payé les yaourts.
À sa place. Lizzie, quand on signe son premier album, après 3 EP depuis 2023, est-ce qu'on se projette dans l'avenir ?
Oui, je me projette un petit peu dans l'avenir, ouais. Surtout récemment, je pense que sortir un premier album, ça m'a vraiment donné un premier goût de ce que peut être mon futur, etc. C'est très excitant. Après, j'essaie quand même de rester dans le moment présent. J'ai 22 ans, je profite de la vie, donc voilà.
Titre des EP, il y avait Joli Monstre, ok. Zélie, c'est quoi ? Ensuite, Zélie, c'est qui ? Zélie, c'était qui ?
Zélie, c'était qui ? C'était une jeune femme assez typique de sa génération, qui se pose pas mal de questions, qui commence à y répondre, donc voilà, c'est chouette.
Pour faire plus amplement connaissance, je vous ai demandé à chacune vos titres déclencheurs. Le premier, c'est le vôtre, Hélène Ségara. L'album, c'est The Game, on est en 1980, bien sûr c'est Queen. Que représente ce titre pour qu'il soit déclencheur, Hélène Ségara ?
Une énergie de dingue avec un texte de dingue. C'est-à-dire que peu importe qu'on morde la poussière, quoi. Il y a une force dans cette chanson et c'est une chanson qui me met la pêche à chaque fois que je l'entends. C'est mon oncle André qui avait peu d'écart avec moi, le jeune frère de mon père qui avait 10 ans de plus que moi. À une époque où mon père écoutait de l'opéra et ma mère Charles Aznavour à longueur de journée, qui ramène cet album à la maison sur la chaîne Ifi de la maison. Et je peux vous dire que je l'ai saigné cet album vraiment. Et il y avait une chanson que j'aimais encore plus, mais qui n'est pas très connue du public, qui s'appelle Play the Game. Et je trouve aussi qu'elle est hyper intéressante parce qu'on est toujours obligé de jouer certains jeux.
Vous êtes essayé la voix sur ce genre de titre ?
Ouais, ouais, celle-là, je la chante et je fais exactement la même phrase que lui.
J'en étais sûr.
Alors je fais tous les ponts, les bruits qu'il y a dedans, je sais à quel moment il va gueuler, à quel moment il y a un bruitage, c'est tout bête, mais en fait ça fait du bien.
Vous étiez à l'époque encore Hélène Rizzo.
Ouais.
À quel moment vous êtes devenue Ségara ?
Je ne sais pas si c'est dès le tout début. Ségara, c'était le prénom de la maman de mon compositeur et on avait trouvé ça parce que je voulais pas. Toute ma famille était. Des Rizzo, il y en a beaucoup, mais toute ma famille était dans le bottin. Je me suis dit, oh là là, si je sors avec ce nom, Rizzo. Déjà, il y en a qui vont l'écorcher et puis toute ma famille va être harcelée, etc. Et j'aimais bien Ségara. Et en fait, je me suis petit à petit. Habituée, j'ai voulu garder mon prénom, mais ce nom, Ségara, a commencé à me coller à la peau très vite, ouais.
Zélie, c'est votre nom, j'imagine ?
Oui, tout à fait.
On vous a expliqué pourquoi on vous avait appelée de cette façon ?
Alors, c'est pas très original, c'était le nom de l'arrière-grand-tante de mon père, je crois.
C'est assez original quand même.
Ouais, mais c'est pas une histoire de dingue
non,
à raconter.
Non, c'est pas une histoire de dingue, oui.
C'est un très vieux prénom du nord de la France, parce que je suis du nord.
Et fier de l'être.
Et fier de l'être.
Votre titre déclencheur, c'est celui-ci.
Without you here, I am boring. Something inside you is sugaring. It makes me myself, makes me funny. You're a beautiful thing. We're a beautiful thing together. Even when the weather is low, you're a beautiful thing. We're a beautiful thing together. Even when the weather is low.
Vous connaissez cette voix, Hélène Ségara?
Est-ce que non, c'est pas Birdie, hein? Non, c'est pas elle.
Non, c'est vrai que c'est un peu le même style.
Ouais.
Ouais.
Alors c'est qui, Zélie?
C'est une jeune fille qui s'appelle Grace Vanderwoel, avec l'accent.
Ouais.
Et en fait, elle a participé à la, la France. Incroyable Talent aux États-Unis.
Ah.
J'ai découvert cette fille sur YouTube.
Ah mais c'est pas très vieux ça. C'est quoi ça?
Non, c'est pas très vieux. C'était il y a peut-être 6-7 ans.
Ok, ok, donc je vois qui c'est.
C'est une fille de mon âge en fait,
ouais.
Carrée, frange. Déjà, elle m'a donné envie de me faire une frange à la base. Et après, c'était la musique.
Et en donc fait, au départ, c'est capillaire.
C'est complètement capillaire.
Et ensuite, c'est musical.
Elle est très habitée, hein. Elle est vraiment très
oui.
habitée. Elle a quel âge? Elle est jeune comme toi?
Oui, je crois qu'on est de la même année, 2001.
Et ça a été un élément déclencheur pour vous?
Complètement, parce que déjà, elle s'accompagne au ukulélé. Donc suite à ça, mes copines m'ont offert un ukulélé. Et en fait, je pense que j'avais pas encore vu une fille de cet âge-là, donc aussi jeune que moi, qui avait des choses à raconter, qui chantait comme ça de manière très authentique son quotidien
était,
et tout.
En
et...
plus, elle était auteur-compositeur, hein, si je me souviens bien.
Ouais, ouais. Autrice-compositrice.
Et à l'époque, elle était auteur-compositeur, si je me souviens bien, et au moment de l'émission, elle était mineure, n'est-ce pas?
Oui, tout
ouais,
à fait.
C'est ça. Elle avait vraiment fait un carton aux États-Unis. Hein.
Complètement, ouais. C'était incroyable et je pense que ça m'a. Je sais pas, je me suis dit, on a des choses à dire à notre âge aussi, c'est vrai.
Mmh, grave, de plus en plus, je pense.
Et ça m'a donné envie.
Ah ben c'est parfait.
Une petite nouvelle qui arrive de Toulon. Hélène Ségara, première émission de télévision, ça s'appelle Loin. C'est loin, c'était en 1994.
Ouais, ouais, j'ai l'impression, là, les sons et tout, j'ai l'impression que c'est une autre planète.
Bah, c'est une autre planète.
Ouais.
Première apparition télévisée.
Ouais, torture hein, pour moi.
Ah ouais?
Ah oui, bah, jusqu'à l'âge de 27 ans, mes parents, ils n'ont pas une photo de moi, donc c'est compliqué hein, pour moi de me retrouver face à un écran. C'est un moment de malaise énorme.
C'était Pascal Sevran,
ouais.
Qui se trompe sur votre prénom.
Hélène
Ségara.
Ouais. Moi, ça me gêne pas.
Oh, c'était pas mal non plus.
Ouais.
Ça faisait espagnol.
Mais Ségara, c'est espagnol.
Mais je sais bien, c'est pour cette raison. Le titre, c'est Loin. Premier single en 93. En 93, vous aviez dans les 20 ans. Le même âge que vous, d'ailleurs, Zélie. Qui étiez-vous à cette époque?
Une fille qui se cherchait encore, comme beaucoup de jeunes femmes à cet âge-là. Et je crois une personne qui s'aimait, qui aurait bien voulu s'aimer un peu plus, mais qui n'y arrivait pas, quoi.
Mais qu'est-ce qui résistait, en fait?
Je pense que pour s'aimer, il faut avoir reçu de l'amour, tout simplement. Et à l'époque, j'en manquais cruellement. Et c'est un peu dans cette optique-là que j'ai fait... ce métier, tout simplement. Quand on n'a pas reçu assez d'amour, on trouve le moyen de pouvoir en donner quand même.
On est en 1993, aujourd'hui on est en 2024, donc 31 ans plus tard, vous allez vous la jouer symphonique le 21 septembre prochain avec le spectacle Hélène 25, pour 25 ans de carrière. Mais le compte n'est pas bon. 93, aujourd'hui, c'est 31 ans,
oui.
Et il y a marqué 25 ans de carrière, pour quelle raison? Ça veut dire quoi, en fait?
C'était ma première télé, mais c'était pas vraiment le vrai début de ma carrière. En fait, on peut compter à partir du premier album, et ce qui s'est passé surtout, c'est que j'aurais bien voulu les fêter avant, mais les impondérables et les épreuves de ma vie m'ont empêché de fêter ça. Je me suis dit que il fallait que je me batte pour arriver à le fêter, même avec du retard, et c'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire. Et pour moi, cette date, elle est très importante, non seulement pour montrer que les années ont passé, que je suis toujours là, et grâce au public, et j'en suis reconnaissante, mais surtout pour montrer que je me suis battue pour arriver à célébrer un moment de joie comme celui-là avec eux, et qu'ils ne seront pas déçus, parce que forcément, ça va être un moment que je n'oublierai jamais.
Il y aura des invités ?
Oui.
Déjà des noms ?
Oui, vous.
Les gens ne seront pas
pourquoi
déçus.
Pas toi,
en effet,
pourquoi
les pas gens toi ne seront pas déçus.
Avec plaisir.
2024, on va faire jouer les chiffres. 8 millions d'albums vendus dans le monde, plein de prix, une victoire de la musique artiste féminine en 2001, 13 albums, une série de tubes, et bien sûr, celui qui a tout déclenché.
Je vais pour elle. Io vivo.
Je serai perdu sans
elle. Vivo per lei dentro gli hotel.
Je suis triste et je la fais.
Vivo per lei nel vortice. Attraverso la mia voce si espande e amore produce. Vivo per lei dentro.
Le titre n'arrête pas de monter avec le lyrisme
oui,
qu'on peut vous
ça
reconnaître.
Le titre il est intemporel. Ah bah, on peut pas dire que
c'est un standard.
Ouais, c'est un standard. C'est un tellement de gens qui se marient sur ce titre. Merci, ça me fait très plaisir. Et une aventure extraordinaire avec un homme qui me découvre aussi toute jeune et qui me dit je sais que je te porterai bonheur. Et j'aimerais te dire ça aussi ce soir. Je sais que je vais te porter bonheur.
Elle s'adresse à Zélie, non pas à moi.
Oui.
1997 avec Andrea Bocelli. Il y a eu un avant et un après, cette oui chanson. Avant, c'était quoi ? Vous chantiez où ?
Avant, toutes les années, moi, j'ai fait mes armes dans des restaurants, dans des hôtels où je chantais, en chantant un répertoire très varié, dont du Queen, justement, du Police, mais du Barbara Streisand, et je chantais en 10 langues. Non, peut-être pas en 10 langues à l'époque, d'ailleurs.
Répertoire anglo-saxon, d'accord, mais
oui,
quelles autres langues ? Bah, italien, espagnol,
italien,
ça, on le
espagnol,
sait, vous le referez par la suite,
portugais,
d'ailleurs.
Portugais, anglais.
Ah ouais.
Et à l'époque, j'avais israélien parce que j'avais deux personnes qui venaient tous les soirs qui me disaient « Vous pouvez me faire telle chanson en hébreu, telle chanson en hébreu ?» Et je me suis dit « Il faut que je l'apprenne, quoi. » Et donc, j'en ai appris une. Et puis après, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé de chanter en arabe aussi. Et puis finalement, je m'y suis mis, quoi. Et petit à petit, c'était une manière pour moi de faire plaisir aux gens.
C'était dans quel genre de lieu ? Donc des restaurants,
ouais,
des cafés,
à Nice,
des bars ?
Ouais, j'ai fait un peu de tout. Bah, des endroits où à la base les gens ne sont pas très attentifs, mais ils le deviennent subitement quand on fait les choses avec passion. Quoi.
J'imagine que c'est une école.
Oui, c'est une bonne école. Et surtout que moi, j'ai jamais pris de cours de chant. J'étais totalement autodidacte et que c'est une école de la vie, hein, pas seulement de la musique. Hein.
Alors justement, comment vous avez formé votre voix ? Pas de formation classique ?
Non.
Pas de cours de chant ? Au départ, peut-être.
Pas
par
de
la
technique,
suite.
Non, jamais.
Pas technique, justement. Comment on apprend ? En imitant les autres ?
En écoutant. En fait, je pense que l'écoute, c'est pas seulement pour la musique. Je crois que l'écoute nous apprend tout sur la nature humaine, sur la musique, sur le monde qui nous entoure, sur le monde tel qu'il bat. Et c'est vrai que j'ai toujours écouté et j'ai toujours observé. Et j'ai observé certaines voix.
Par exemple ?
Streisand a été une de mes premières inspirations. Freddie Mercury, je le dis souvent. En France, c'était Balavoine aussi. Et j'aimais pas que cette voix qui n'en finissait pas de monter, comme vous dites, mais j'aimais aussi ses prises de position, son franc-parler, son engagement, le fait que jusqu'à sa mort, on ne savait pas forcément tout ce qu'il a fait au niveau humanitaire. Enfin, c'était un personnage, quoi. Je sais aussi qu'il y a eu des... Après, j'ai rencontré des proches, etc. Et je sais qu'il n'était pas en demi-teinte et que c'est quelqu'un qui a toujours respecté ses musiciens, son entourage. Voilà, je trouve ça formidable qu'il y ait des personnes comme ça dans ce métier, qui ne soient pas seulement axées sur leur nombril et sur leur ego, quoi.
En parlant du métier, justement, la position d'être une femme dans ce métier, est-ce que ça a été facile ou difficile pour vous, Hélène Segarra ?
Je ne suis pas dans ce débat. Je pense que la femme est en train de s'affranchir de beaucoup de choses aujourd'hui. Je me suis pas posé ces questions. Moi, en fait, je n'avais qu'une arme, c'était mon sourire et ma sensibilité. Et j'étais pas quelqu'un de super ambitieux. Je chantais parce que c'était ma manière de m'exprimer, de respirer, de contrôler mes émotions et de les partager. Mais je chantais pas en me disant il faut que je devienne grande, que je dépasse tout le monde, que j'étais pas dans cette optique là. Et d'ailleurs, une des premières personnes que j'ai admirée et qui est devenue un pote après, c'était Francis Cabrel. Et pour moi, c'était un exemple de l'important, c'est de durer. L'important, c'est pas d'écraser tout le monde, d'être numéro un. D'abord, être numéro un à vie, ça n'existe pas. Et puis, à un moment donné, il faut aussi laisser la place aux autres. Mais l'important, c'est de durer et de toujours toucher le cœur des gens, malgré les années qui nous font évoluer.
Quelle était la place de la musique dans votre famille ? Double culture, italienne du côté de votre père, arménienne du côté maternel ?
Alors bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Papa, c'était un féru d'opéra. Maman, c'était Aznavour, comme tous les Arméniens, hein, évidemment.
Ben oui, bien sûr.
Ce qui est merveilleux, c'est qu'après, j'ai voyagé avec lui et j'ai chanté avec lui. Et c'était pour ma mère, elle est partie en Arménie avec nous et elle a vécu des choses extraordinaires avec nous. Mais la musique, en fait, moi j'ai grandi avec une radio collée à l'oreille, et c'était dans les années 80 qui étaient quand même des années géniales, et du coup je suis incollable sur les années 80, vraiment.
Vous pourriez faire partie de la tournée des années 80 sans problème.
En tout cas, je pourrais les reconnaître les unes après les autres, et c'était aussi mon évasion, ma manière de m'évader d'une adolescence très compliquée. Donc la musique, c'était ma porte, mon issue de secours, on va dire. Après, la place qu'elle avait dans la famille, c'est-à-dire que la musique, il n'y avait personne qui était musicien chez moi. Donc pour moi, le devenir, ça a été un chemin. Mais par contre, tous les dimanches, chez nous, on chantait. Chacun poussait la chantonnette parce qu'on était des Italiens et qu'on aimait la vie, on aimait manger, on aimait rire, on aimait parler fort et on aimait chanter.
On vous a encouragé dans cette vocation ?
Pas trop. Pas trop, ça leur faisait peur, je pense.
C'est normal. Zélie, et de votre côté, on vous a encouragé ?
Oui, complètement.
Ah, super.
Vous avez de la chance ?
Oui.
Parents musiciens ?
Non, pas du tout.
Ah oui ?
Pas du tout, mais déjà petite, tous les week-ends, c'était, je leur faisais le petit spectacle.
Ah ben ouais, sûr. J'adore ça.
Je pense qu'ils ont très vite compris, en fait. Donc après, ils se sont dit, effectivement, elle a l'air tellement épanouie là-dedans que ça va se passer comme ça et on la soutient là-dedans, quoi.
Vos enfants, Hélène Segarra, sont dans la musique ?
Non, pas du tout. Et il n'y en a aucun qui a pris cette direction. Enfin, si, Raphaël, au départ, mon aîné, avait pris cette direction. Finalement, il s'est dit qu'il n'était pas fait pour ça. Et j'ai deux autres enfants qui sont plutôt intéressés par la science et par la psychologie. Donc, voilà.
Vous êtes une interprète, avant tout, mais vous avez signé quelques textes,
pas
comme
mal,
Je vous aime, Adieu, un de vos premiers succès. Vous en avez co-signé d'ailleurs pas mal. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi radicalement dans cette voie ?
Ah, je l'ai fait, ensuite.
Ah oui, je sais, il y en a pas mal.
Ouais, ouais, mais après, j'ai signé mon dernier album, Karma, je l'ai fait entièrement seule. C'est pour vous dire le temps qu'il m'a fallu pour m'affranchir de certains liens et pour vous dire le temps qu'il m'a fallu pour me faire confiance. Pourtant, j'en avais des choses à dire et j'écris tous les jours de ma vie.
Il y a un nom qui revient, un auteur, c'est Christian Vier, l'auteur de plusieurs titres, comme ce tube, Il y a trop de gens qui t'aiment.
Il y a trop de gens qui t'aiment, et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne, cet amour avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour.
Un mot sur cette voix. Vous disiez qu'au départ, vous étiez autodidacte, que vous apprenez en écoutant les autres, en imitant Streisand, j'imagine aussi.
Non, là, on ne ressent pas les influences que j'ai écoutées.
Non, pas du
fait,
tout, ouais. Justement.
En fait, cette chanson m'a permis d'être moi-même. C'est ça qui était bien. Et je savais, en l'entendant, qu'elle ne pouvait être faite qu'avec délicatesse. Parce que, tout simplement, c'est quelqu'un qui... Christian, quand il m'a écrit cette chanson, c'était du sur-mesure. C'était quelqu'un qui était dans l'ombre des autres et qui... attendait son moment de lumière, c'est-à-dire qu'il attendait à un moment donné, pas de briller, mais juste de sortir de l'ombre. Et en fait, je me suis dit, il y a tant de choses à dire, cette chanson exprime tellement de choses. Regarder quelqu'un s'éloigner parce qu'on a l'impression qu'on va pas être à la hauteur, se sentir loin de l'autre et pas oser lui dire, enfin voilà, tout ça c'était très poétique et il fallait le poser avec douceur et avec délicatesse et surtout sans amertume.
Cette voix, est-ce que vous l'avez travaillée par la suite avec des professeurs pour non, pouvoir l'assurer ?
Non, je ne l'ai pas travaillée, mais lorsque j'ai eu des problèmes de cordes vocales et j'ai eu une chirurgie des cordes vocales, après un kyste à la fin de Notre-Dame de Paris.
Oui, oui, au Canada, ça c'est pas ouais, la première fois que vous perdez votre voix, ouais. C'est au Canada, ouais.
Et ensuite, je pars à New York et ensuite je me fais opérer en France par Jean Abitbol et je pars faire ma rééducation à New York avec le professeur de Céline Dion, Bill Riley. Et à ce moment-là, je suis presque aphone pendant 3 mois. Il faut vraiment que je fasse très attention à la cicatrisation. Et en fait, je n'apprends pas à chanter avec lui, j'apprends à réparer ma voix et surtout à ne plus jamais l'abîmer. C'est-à-dire que je pense que ce qui m'est arrivé vocalement, c'est parce que justement, je n'avais aucune technique et que je m'abîmais. La façon dont j'utilisais ma voix me faisait mal.
Ensuite, vous avez chanté de façon différente, alors ?
Oui, mais je lui ai dit, quand je suis arrivée pour mon premier cours de rééducation, je lui ai dit, je n'ai jamais pris de cours de chant parce que je ne voulais pas perdre ma sensibilité et mon émotion. Et je dois dire que je trouve que c'est le plus important. C'est-à-dire, moi, je préfère quelqu'un qui rate une note, mais qui va donner une émotion, ou même qui ne va pas contrôler son envie de pleurer, etc., mais qui va mettre ses tripes dans la chanson, que quelqu'un qui va faire comme une machine un son parfait, que je vais admirer bien sûr, mais où l'émotion sera totalement absente.
Dans ce parcours, les mêmes noms reviennent pour les paroles, pour la musique, mais avec des écarts, comme en 2003 sur l'album Humaine. Vous signez le texte, c'est Pierre Souchon, la musique de On ne
dit pas.
Pas. On ne dit pas, le texte signé Hélène Segarra, la musique Pierre Souchon. Comment ça se passe ? On écrit pour vous, on vous envoie des choses
en fait,
vous êtes à la recherche ?
C'était un copain, Pierre, à l'époque, on traînait avec Julien Schultes, Pierre Souchon, Régis Ceccarelli, qui était mon batteur, et également Thomas Dutronc. Et à un moment donné, il me dit « Oh, j'ai fait une petite mélodie, tu veux écouter ?» Et immédiatement, j'ai eu cette idée de texte, les mots. Parfois, c'est tout ce qu'on a pas. Parce que c'est vrai que parfois, c'est ce qui nous manque, quoi. Et de plus en plus, d'ailleurs. Les gens deviennent des autistes émotionnels et
la violence naît de ça.
Oui, bien sûr. Je pense que tout ce qu'on n'exprime pas va quand même quelque part, forcément.
Sur cet album, on trouve aussi « Je n'oublie que toi », paroles et musique, Maxime Le Forestier.
Au bout de mes peines, j'ai pleuré pour toi. Depuis ce jour-là, la terre a la fièvre. On s'est quitté du bout des lèvres. Au bout du monde, où que tu sois.
C'est le titre, Je n'oublie que toi.
C'est fou, c'est la première fois que je le réécoute après toutes ces années. Il y a quelque
super
chose
chanson.
D'innocent et de pur et je ne l'avais jamais réécouté.
Ouais, je vous ai vu sourire en écoutant justement
ouais,
ce titre de Maxime Forestier.
Vraiment candide et pur, quoi.
Comment cette chanson s'est retrouvée sur cet album?
Alors, je crois que Maxime, c'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire pour les femmes. Et sur les restos, il m'avait dit « J'aimerais beaucoup faire quelque chose avec ta voix ». Et il m'a envoyé cette chanson et je me suis dit « Oh, c'est un petit ovni sur l'album, donc c'est intéressant que je m'y risque un petit peu ».
Ça veut dire que vous ne la reprendrez pas en version symphonique?
Bah écoutez, là, franchement, en l'écoutant, mais en fait, quand j'ai fait la liste pour le symphonique, j'ai fait avant tout les grands tubes que les gens
entendu.
Attendent. Voilà. Après, moi, mes chansons sont pas forcément préférées, sont pas forcément les plus connues. Vous le savez, c'est toujours comme ça pour les artistes. On a des chansons qui sont pas des singles, mais qui restent nos pépites à nous. Et en fait, c'est tout mon combat en ce moment, c'est de renoncer à certaines chansons qui, moi, ont un écho très fort. Mais en même temps, mon concert, je le fais pour le public, pas pour moi.
Quelle chanson, par exemple, vous tient particulièrement à cœur?
Je te retiens.
Pour quelle raison?
Parce que je l'ai écrit pour une jeune femme qui... je pensais que j'avais tellement d'amour et de foi que je pensais que j'avais le pouvoir d'empêcher quelqu'un de partir et de quitter cette terre et que la maladie a été plus forte que moi quand j'ai écrit, elle allait de mieux en mieux et je te retiens, sauf que à la fin, quand elle est partie, j'ai jamais pu la chanter sur scène. J'en ai fait une autre qui s'appelle « Je te pardonne » pour quelqu'un qui m'a quitté, qui est mort aussi. Enfin, en fait, j'ai fait des chansons comme « Petite flamme » pour une de mes meilleures amies qui avait mon âge et qui est partie aussi. Enfin, j'ai vu beaucoup de gens partir autour de moi.
Ces chansons, vous ne pouvez pas les chanter sur scène?
Ah oui, « Phaser » par exemple. « Phaser », au départ, « je les avais mis dans ma setlist de tournée. Et en fait, au bout de quelques jours, je partais en larmes, je partais avant la fin. Et j'arrivais pas à me contrôler. Alors, je sais qu'il y a des artistes des fois qui simulent, mais moi, c'était minable. Tellement j'arrivais plus à faire mes notes. Donc je me suis dit, il faut que je les enlève, c'est moche, quoi.
L'ouverture du symphonique, ça sera avec quelle chanson?
Dites-le-moi, j'en sais rien.
Mais je ne suis pas devin. Mais vous le savez encore? Pas du tout.
En fait,
c'est toujours le problème. Est-ce qu'on commence par un truc énorme?
Et voilà, exactement, mon cœur balance. Je pense vraiment qu'il va falloir que je me décide entre deux chansons.
Au niveau de la voix, chanter symphonique, ça veut dire quoi, Hélène Ségarin?
Ça veut dire pour la première fois... oublier un petit peu tout ce qui m'entoure et n'être focalisé que ne faire qu'un avec un orchestre et de nombreux musiciens et arriver à créer une harmonie, donc être vraiment concentré sur ma voix comme si c'était un instrument de plus dans ce groupe, mais essayer de donner quelque chose, une dimension supplémentaire.
Hélène Ségarin, vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Zélie dans quelques instants, juste après une respiration signée Étienne Dao. Respire dans Côté Club.
L'homme se consume à tout petit jeu, le charbon et les paupières en feu, sa anesthésie de poison sans visage, et des chants de sirènes de passage. Le soir progresse et son manteau de givre s'étend sur ses mille visages. Et il dérive de séduction, survie au grand art de l'esquive. Il esquive comme une peau de satin de serpent. Sa muse se dissout dans la nuit d'argent. Les eaux qui flambent vont se disperser. Et l'aveuglé de paillettes d'acier. Dans lorsque ta vie ne semblera plus t'appartenir, que tu chercheras à t'enfuir, te reconstruire, ouvre grand les bras, gonfle ta poitrine et respire. Bien sûr, tous les gens du passé, tous les vampires, chercheront à te retenir, à te salir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. Dresse-toi dans le ciel bleu clair de Paris. Les drapeaux y s'efflottent haut et irradient. Les cloches à toute volée vont retentir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. Respire. Respire.
Étienne Dao, ça vous dit quelque chose, Zélie ?
Oui, tout à fait.
C'est le chanteur de votre père ?
Oui, c'est l'artiste préféré de mon papa.
Votre papa qui nous écoute, c'est ça ?
Oui, enfin j'espère. Oh là là.
Donc ça veut dire que vous avez été biberonné à Étienne Dao ?
Oui, carrément. C'était vraiment, je pense que c'était l'artiste qu'on écoutait le plus à la maison.
Vous l'avez vu en concert ?
Non, jamais. Jamais vu en concert Étienne Dao.
Mais vous voyez, il t'en a rattrapé.
Côté.
Il y a même de la musique.
Club.
Ah, vas-y, qu'est-ce que t'attends ? Va danser.
Laurent Goumard.
Hélène Segarra et Zélie sont nos invités côté club ce soir. Zélie avec son tout premier album, Un million de petits chocs. Il arrive comment ce titre, Un million de petits chocs ?
Alors, l'anecdote est drôle en plus parce que c'était une note dans mon téléphone. J'avais écrit comme ça dans mes notes, lorsque l'on est une femme, on ne nous achève pas d'un coup de massue, mais d'un million de petits chocs.
Wow,
ouais, c'est hyper beau. Mais je savais plus où je l'avais trouvé. Et en fait, je m'étais dit, bon, ça doit être dans un bouquin. J'ai lu pas mal de livres féministes cette année. Et en fait, pas du tout, c'est dans une série Netflix, figurez-vous, qui s'appelle Ginny and Georgia, une série qui est très chouette, très émouvante, très féministe, qui traite d'une mère et sa fille. Et à un moment, elle dit ça à sa fille. Et je trouvais ça très beau.
Mais c'est vrai, cette phrase, hein.
Ouais.
Ah, je la trouve absolument vraie.
En tout cas, ça résonne.
Je peux imaginer. Premier album pour vous avec un jeune parcours qui commence avec une reprise qui a cartonné sur TikTok. Au revoir, mon amour, de Dominica. On est en 2022.
Ça fait bientôt une heure que tu es arrivée, que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler. Et soudain, il arrive. Et vous vous en allez. Au revoir mon amour. Peut-être un autre jour. Peut-être une autre année. Au revoir mon amour. La vie n'est pas finie. La vie n'est pas passée.
Vous saviez en postant cela sur TikTok que ça allait être la déferlante ?
Pas du tout. Franchement, en plus ça faisait quelques semaines que j'essayais sur TikTok parce qu'on m'avait dit mets-toi sur TikTok et tout. Et je pensais pas du tout que ce serait avec une reprise comme ça de 5 secondes. Il y avait que le refrain. Donc, et c'est vraiment cette phrase-là, au revoir mon amour, peut-être un autre jour, qui a marqué un petit peu les esprits, je pense. Et les gens connaissaient pas la chanson originale en plus, donc c'est assez fou ce qui s'est passé.
Vous avez fait beaucoup de reprises ?
Non, pas tellement. J'en ai fait deux. Au revoir mon amour et une reprise de Joker aussi que j'ai sortie en 2021.
Joker sinon, qui est aussi présent d'ailleurs sur ce premier album.
Tout à fait. Mais franchement, à part ça, je ne suis pas très reprise, je crois.
Vous avez commencé à composer en 2016 quand vos copines vous offrent un ukulélé.
Oui.
Donc le ukulélé, vous en avez parlé tout à l'heure, en référence donc à cet artiste que vous avez écouté aux États-Unis. Mais avant, vous pratiquiez d'un instrument ou rien du tout ?
Alors j'avais fait un petit peu de piano quand j'étais petite, mais moi c'était surtout la danse, mon domaine de plaisir. Et du coup, j'avais
plus que de plaisir, vous aviez une solide formation en danse contemporaine.
Oui, totalement. Mais en tout cas, c'est vrai que les instruments, je m'y étais pas mise. Et en fait, à partir du ukulélé, j'ai eu envie de me remettre au piano, mais de manière autodidacte. Et du coup, maintenant, c'est plutôt le piano. Mais le ukulélé, ça a été un vrai déclic, quoi.
La danse contemporaine, vous vouliez en faire votre profession au départ ?
Oui. Oui, totalement. Enfin, je pense que de mes 5 ans à mes 18 ans, je voulais être danseuse contemporaine. C'était vraiment, j'en étais sûre. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être pas en fait. J'avais plus envie de mots que de mouvements. Bon, ça paraît très deep dit comme ça, mais...
Non, mais je comprends. C'est-à-dire la danse contemporaine, pour certains, pas sur tous, parce qu'il y a des plateaux sur lesquels on peut parler, mais en effet, c'est un art sans parole.
Oui, complètement. Et je pense que la danse contemporaine, en plus, c'est un peu particulier. Je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai arrêté, donc j'avais 17-18 ans, j'avais l'impression que je manquais de maturité pour le faire comme j'étais censée le faire et pour réussir à m'exprimer à travers ça. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dirigée vers les textes, vers l'écriture, parce que je me sentais pas assez habitée par la danse contemporaine à ce moment-là. Vrai. Je le faisais de manière... j'exécutais beaucoup, j'imitais beaucoup, je savais interpréter.
Tu pouvais pas créer à ta manière.
Exactement, je me sentais pas moi-même, en fait.
Ça vous sert pour la scène et les concerts aujourd'hui ?
Oui, grave.
Ouais. Là, je peux imaginer.
Ouais, bah là, sur ma tournée, c'est chouette, parce que j'ai travaillé avec une chorégraphe. C'est contemporain, mais un peu hip-hop, quand même. Et du coup, entre les chansons, il y a des petits moments de danse. C'est cool, parce que les gens ne s'y attendent pas trop. Donc, c'est marrant.
Mal.
La dernière personne que j'ai rencontrée il y a des années, très très jeune, et qui commençait sa carrière et qui m'a fait cette impression, s'appelle Christine and the Queens. Tu vois,
wow.
Je l'ai vue dans une toute petite salle à Los Angeles, on a parlé, etc. Elle avait encore ses cheveux longs, etc. Et j'ai senti cette énergie que tu as et ce mélange de force animale, instinctive et à la fois une écorchée vive avec un volcan à la place du cœur, quoi, tu vois.
Merci beaucoup.
Vous vous souvenez de votre premier concert, de votre première prestation en public, Zélie ?
Oui, oui. C'était il n'y a pas si longtemps en réalité.
Bah non, parce que tout est jeune là-dedans.
Bah oui, complètement. Oui, je pense que ouais, je m'en souviens très bien. Le premier vrai concert que j'ai fait à mon nom, c'était au Trois Baudets, une salle dans le 18e.
Oui.
Qui est
à Paris.
Incroyable. Ouais, c'est trop bien. Et je pense que c'est jusqu'ici, c'est le concert le plus émouvant. Le lendemain, j'ai passé 3 heures à pleurer. J'ai écrit une chanson d'ailleurs qui s'appelle Merci, pour remercier les gens. J'avais l'impression que c'était... Enfin, c'est une petite salle, mais c'est fascinant, en fait, comme sensation de faire un premier concert, etc., sur une scène aussi belle. C'était incroyable.
Vous avez fait le cours Florent, section musicale. Qu'est-ce que vous y avez appris ?
Alors, j'y ai appris... Déjà, je pense que c'est là-bas que j'ai compris que j'avais envie de faire ça, parce que quand je me suis dit, let's go, je vais tenter la musique, parce que c'était très instinctif, mais c'était quand même assez flou. J'étais en mode... Puis c'était étonnant pour tout le monde autour de moi que d'un coup, je me mette à choisir la musique plutôt que la danse, notamment pour mes parents. Et puis en fait, au cours Florent, j'ai rencontré des personnes. C'était une évidence. Au bout d'un mois là-bas, je savais que je voulais faire de la musique. Et puis surtout, j'ai pu reprendre un peu les bases parce que j'avais pas de notion de solfège. Je savais même pas ce que c'était qu'un accord au piano, etc. Je connaissais les accords au ukulélé, mais c'était visuel. Et là, j'ai repris toutes les bases et j'ai appris à composer de manière un peu plus professionnelle, quoi. Donc, c'était super.
Aujourd'hui, 2024, un premier album. On va écouter tout de suite le titre Fou. Peut-être un mot pour le présenter, Hélène Segarra.
Alors, le titre Fou, tu parlais tout à l'heure des titres qui sont les singles et qui sont pas forcément les plus importants pour nous, mais qui sont un petit peu les titres phares de mon début de carrière. Fou, c'est le titre qui a le plus marché de mon album et c'est un titre... assez insolent, où je parle à mon ex et où je lui dis « mais je suis tellement mieux sans toi en fait ». Voilà.
Tout de suite, sur France Inter.
Ça a parlé à beaucoup de gens.
C'est vide sans toi, mais qu'est-ce que c'est bon de rire sans toi. Oh, t'es lequel de mes ex déjà? Peut-être celui qui a fait le plus de dégâts. Oh, ça m'a rendu si belle de te dire à jamais. Tu n'as pas mon level, pourquoi je m'acharnais à te plaire quand bien même je suis sans nouvelles. Ça m'a rendu si belle de
tu te diras jamais, tu n'as pas mon lever, pourquoi je m'acharnais à te plaire quand bien même je suis sans nouvelles. T'étais fou. Prépare le futur sans nous. Oh, oh. J't'oublie en fumant plein de zouzou. J't'oublie mais j'te fais plein de bisous. Oh, oh. Ça m'a rendu si belle de te dire à jamais. Tu n'as pas mon lever, pourquoi je m'acharnais à te plaire quand bien même je suis sans nouvelles. Ça m'a rendu si belle de te dire à jamais. Tu n'as pas mon lever, pourquoi je m'acharnais à te plaire quand bien même je suis sans nouvelles. Je ne vois plus de l'aise, haut et fort, je le dis, tu me traites comme une merde. Fais-y, fais pas ça, Zélie Portel, on ne voit que toi. Quand je tourne la tête, je ne vois plus de l'aise, haut et fort, je le dis, tu me traites comme une merde. Fais-y, fais pas ça, Zélie Portel, on ne voit que toi. T'étais fou.
Le tube pop extrait de 1 million de petits chocs signé Zélie. Comment vous écoutez ce titre, Hélène Segarra?
Alors moi, dans la reprise qu'elle a fait de Dominique A, j'aime énormément le souffle qu'elle a dans la voix. Ça me touche beaucoup.
Elle est comme un voile.
Là, j'aime la façon sucrée dont elle emmène quand même cette petite vengeance gentillette. Mais elle l'envoie quand même. Mais je trouve ce titre très efficace et je lui disais que j'adore la ligne de basse aussi.
Mais en effet, c'est pas du tout la même voix. Enfin, si, c'est la même voix, mais sans le voile presque italien que vous aviez tout à l'heure quand on écoutait la chanson, une des premières qui vous a fait repérer.
Ouais, bah tout à l'heure justement, quand c'était intéressant quand vous parliez de technique vocale, etc. Enfin, du fait de pas forcément avoir pris de cours de chant. Je sais qu'au moment où j'ai chanté Au revoir mon amour, je mettais beaucoup de souffle dans ma voix et j'avais remarqué sur TikTok que les gens aimaient beaucoup ça. Et du coup, au moment de l'enregistrement de cette chanson, je m'étais dit, vas-y, le souffle à fond sur cette chanson, parce que...
C'est ce qu'Angèle fait aussi.
Ouais.
Ouais, et bah Angèle qui était aussi une de mes premières inspirations, donc je pense que je me suis reconnue dans beaucoup de chanteuses francophones qui mettaient du souffle dans leur voix, etc. Donc j'ai commencé par faire ça, et après par la suite, je me suis aussi rendu compte que pour exprimer certaines émotions, il fallait que je passe par autre chose, même moi, parce que... Par exemple, sur scène, je ne peux pas mettre du souffle tout le long.
Non,
ça m'empêche.
Bah
c'est impossible.
C'est impossible, c'est épuisant.
C'est épuisant.
C'est être en apnée.
Et comment tu veux mettre l'énergie si tu mets le souffle, enfin,
exactement.
Tu vois.
Et même, j'ai eu aussi envie de faire des morceaux. Là, dans l'album, il y a tout type de thèmes, de morceaux. Il y a des morceaux un peu plus colériques où je pouvais pas, j'ai pas pu m'empêcher d'utiliser ma vraie voix, quoi. Mm. Et je pense que Fou, c'était un peu un juste milieu. Elle a quand même un peu de punch, donc j'avais envie de varier un petit peu. Mm.
Vous composez au piano?
Oui. Tout à fait. Et pas celle-ci. Fou, on l'a composée en studio avec deux compositeurs qui s'appellent Bovary et Medellin. Mais la plupart de mes chansons, c'est au piano, tranquillement, dans ma chambre.
Tranquillement dans votre chambre.
Mais je pense qu'elle est qu'au début, donc elle va encore explorer tellement de directions différentes. Tu sais, moi, j'ai aussi connu Ize, très ouais. jeune. Je trouve qu'elle a une voix fantastique dans la douceur. Mais là, si tu écoutes le dernier album, où elle lâche les chiens, mais c'est ouais. intéressant aussi. Et en fait, quand on entend des chanteuses comme toi, ou même comme moi à l'époque, qui avaient des voix pleines de souffle, de douceur, de finesse, on a aussi envie de voir à le moment donné où ça va craquer
ouais.
et où on va déchirer l'écorce et montrer ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Et ça, je pense que tu en es capable. Et sur scène, je suis sûre que tu le donnes, ça.
Eh bien, cet intérieur, on peut le ressentir dans un autre titre, Puzzle de vie. Des questions d'anxiété, plein de questions liées à la jeunesse, 20 ans, l'âge de la transition. Puzzle de vie, avec plein de questions.
Est-ce mes 20 ans qui réveillent tous ces non-dits? Est-ce mes parents?
qu'on subit. Est-ce que ce gars comprendra qu'il m'a sali? Est-ce que le bonheur nous a glissé de main? Est-ce qu'on en parle pour ne pas penser à demain? Est-ce que le vrai bonheur c'est pas de s'éteindre? Est-ce que maman tu peux m'écouter sans crainte? Est-ce que la peur de la mort part en grandissant? Est-ce que tu m'aimeras encore après 2-3 ans? Est-ce que je t'aime? Est-ce que je t'aime?
Pleine question, vous êtes très angoissée, Zélie. Et là, on retrouve le voile dans la voix.
Ouais, peut-être ça dépend du thème, en fait.
Mais bien entendu que ça dépend du thème.
Bah ouais, je me pose beaucoup de questions. J'adore cette chanson, j'aime beaucoup la réécouter aussi. Et ça m'a fait du bien. Je pense qu'il y a encore plein d'autres questions. Et à un moment, à la fin de cette chanson, je me suis dit, est-ce qu'on continue? Mais je garde les autres questions pour plus tard, je pense. Mais j'étais contente de mettre toutes les questions les unes à la suite des autres. Franchement, en tout cas, en concert, il n'y a rien de plus émouvant que de la chanter.
Vous êtes jeune et déjà les questions de nostalgie quand on écoute bien les titres. Mais vous êtes nostalgique de quoi? De quelle période?
De la semaine dernière.
Vous vous rendez compte de l'époque où ils vivent?
Bah, je pense que... C'est marrant, on m'avait déjà posé cette question en plus. Et j'ai l'impression de... Enfin, voilà, j'ai 22 ans, j'ai l'impression d'être nostalgique de la personne que j'étais à 10, de la personne que j'étais à 15, de la personne que j'étais avant l'album, de la personne que je suis... Enfin, en fait, je change tout le temps. Donc, en fait, c'est très facile pour moi de repenser à hier, typiquement de la vie de famille quand j'étais petite et tout. Enfin,
du cocon.
Ouais, complètement.
Mais est-ce que tu te sens adaptée à ce monde aussi, tu vois?
Je sais pas. Je pense que je me suis mise à la musique et que depuis, je me sens bien dans ma peau. Mais c'est vrai que à la base, je pense que j'ai commencé à faire ça parce que je comprenais pas ma place ici-bas et que c'était beaucoup plus simple de trouver quelque chose, de trouver une manière de vivre et notamment, c'est même un métier là aujourd'hui ce que je fais, donc de trouver un truc qui en même temps très ancré dans le sol et en même temps complètement lunaire de faire ça quoi. Donc voilà.
C'est une vieille âme déjà. c'est vrai, c'est une vieille âme déjà. C'est incroyable d'être... aussi habitée, aussi incarnée. J'ai une fille qui est un tout petit peu plus jeune que toi. Et je pense que toutes ces questions, elle les pose. La différence, c'est qu'elle n'a pas trouvé un moyen de les exprimer encore. Mais je trouve ça merveilleux d'arriver de le mettre en musique parce qu'en plus, tu deviens le porte-parole de tellement d'autres petites jeunes femmes comme toi. C'est beau, je trouve. Ça m'a beaucoup émue, ça.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, sur cette note d'émotion. Côté club, c'est fini pour ce soir.
Bah, c'est trop court, monsieur.
Merci, Hélène Ségara. Vous serez salle Pleyel le 21 décembre prochain pour un concert unique, Hélène Ségara Symphonique. On vous retrouve aussi en tournée dans toute la France, dans les comédies musicales, le spectacle, où vous chantez...
Où je chante, évidemment, Notre-Dame de Paris.
Notre-Dame de
et
Paris.
Un album de duo en préparation pour ses 25 ans.
Ah, voilà, en effet. Rendez-vous le 15 mai à Dole, le 16 à Colmar, le 22 à Clermont-Ferrand et le 9 décembre au Théâtre Mogador à Paris. Ça, c'est pour les comédies musicales. Zélie, merci à vous.
Merci beaucoup, c'était super chouette.
Votre album, c'est 1 million de petits chocs. Il y en a eu un autre ce soir. Prochain concert, le 18 mai à Rennes, le 23 à Lille. La maroquinerie à Paris est déjà complète. Alors rendez-vous le 16 février 2025 à La Cigale, toujours à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
La foule
Pas d'anonymat, Bastien Lallemand sera notre invité en live demain avec JP Nataf et Marie Modiano à ses côtés pour son nouveau roman. Merci à toute l'équipe du soir. C'est Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Benjamin Wagon, programmation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic et enfin un grand merci à Tara Natouri à la préparation. Aux playlists Valentine Chedebois. Après le journal, vous retrouverez à nouveau Affaires Sensibles ce soir l'Argentinazo. Les émeutes historiques de 2001 en Argentine. Voilà, côté club, on ferme. Bonne fin de soirée. Alors, à demain.
Côté, c'était vraiment des chouettes moments, quoi.
Oui.
Il y avait même de la musique.
Bye.
Bye.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. On
on en parle.
Les journées de la sécurité routière au travail, c'est du 27 au 31 mai. On en parle avec Jean-Marc Feduti, vous êtes le gérant de Flandre C2E à Auchy-les-Mines, où je vous appelle. Alors Jean-Marc, pourquoi participez-vous à cet événement ?
Vous savez, les accidents de la route sont la première cause de mortalité dans le cadre du travail.
Mais oui.
Et les conséquences sont lourdes, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs.
Et donc, comment sécurisez-vous vos salariés ?
Eh bien, on a instauré un contrôle régulier des véhicules de société, sensibilisé nos collaborateurs par de l'affichage dans les locaux, et on a créé un challenge sécurité pour encourager les bons comportements sur la route, avec bien sûr l'attribution d'une prime de fin d'année en bon d'achat.
Merci beaucoup.
On en parle. Pour participer aux journées de la sécurité routière au travail, rendez-vous sur sécurité-routière.gouv.fr.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec AllWest Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. AllWest Discreet, protection fiable, discrétion incroyable.